Eh bien bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie et bienvenue dans ce libre journal de la Résistance française qui a été préalablement enregistré mais il y a vraiment très très peu de temps, hein, c'était il y a 3 jours. Nous avons une émission de 3 heures qui nous attend où nous allons parler comme le mois dernier, mais cette fois-ci ça n'était pas un enregistrement, ce sera une émission tout à fait spontanée concernant Annick de Souzenel. Et donc, elle nous a quittés. Elle était entrée dans sa 102e année, Annick de Souzenel. Vous vous rendez compte? Elle était née le 4 novembre 1922. Et donc, elle est partie le 11 août 2024. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup de choses à évoquer avec, la concernant avec un certain nombre de témoins. On en aura 2 en particulier aujourd'hui. Mais, pour ne pas manquer quand même à tous mes devoirs, je remercie, parce qu'il n'y est pas pour rien. Et la technique en général, d'ailleurs, avec Annick de Souzenel, n'y est pas pour rien sur la diffusion sur Radio Courtoisie de son œuvre et de sa personne. Là, je remercie aujourd'hui pour avoir participé à cet enregistrement, évidemment, Jean-Édouard, à la technique. Donc, pas de remerciements spécifiques. J'avais pas d'assistant aujourd'hui, ou d'assistante. Mais ça, c'est normal pour parler d'Annick de Souzenel. Je préfère en parler seul. Et puis donc, vous, si vous avez besoin de poser des questions, faire des remarques, des affirmations, n'hésitez pas. Ce sera par courriel électronique exclusivement. Le courrier électronique de la radio. Et je regarderai évidemment chacun de vos messages et ne manquerai pas avec nos invités, de vous répondre de notre mieux. Donc, Annick de Souzenel, ça, c'est une émission de 3 heures aujourd'hui. Et faut-il, est-il nécessaire sur Radio Courtoisie de se rappeler de qui est Annick de Souzenel, hein, qui a consacré sa vie à la recherche et au dévoilement, à la fois du sens profond et subtil des textes sacrés, en particulier ceux de la Bible. Elle l'a poursuivi pendant plus de 50 ans et beaucoup plus encore, puisqu'elle avait, je vous le dis, elle nous a quittés à 102 ans, un chemin spirituel qui était d'essence judéo-chrétien et de sensibilité orthodoxe, mais ouvert globalement, j'ai envie de dire, aux traditions, hein. Ses ouvrages, parce que je pense qu'il faut parler de ses livres pour commencer avec Annick de Souzenel. C'est beaucoup de livres, et le premier où elle pensait d'ailleurs avoir tout dit. On va en parler avec notre premier invité du jour, qui était le symbolisme du corps humain. Et elle se disait, mais j'ai écrit le symbolisme du corps humain, qu'est-ce que je vais... Annick de Souzenel est une femme de devoir, entre autres. Et donc, il fallait qu'elle témoigne, il fallait qu'elle écrive ce livre. Alors elle a écrit, et elle a tout mis dedans. Hein. C'est quelqu'un qui ne... On peut parler d'ésotérisme ou d'exotérisme, qu'importe, parce que elle ouvrait tout et elle donnait tout, Annick de Souzenel, et tout est écrit. Il n'y a pas besoin. Et moi, en ce qui me concerne, d'ailleurs, j'ai toujours eu avec elle une relation à la fois de intellectuelle au travers de ses ouvrages, ou peut-être plus subtile dans un monde invisible, mais pas dans la relation du monde de la réalité, du monde réel. Je pense qu'elle avait, elle pensait que après avoir écrit ce livre, bon, qui a eu plusieurs rééditions hein, quand même, avec entre autres son éditeur historique, si j'ose dire, qui était Albin Michel. Donc le symbolisme du corps humain, c'est l'ouvrage maître. Et elle se disait, et d'ailleurs c'est vrai, il est très dense ce livre, que tout était écrit. Et donc d'ailleurs, quand on me demande. J'ai souvent des auditeurs de Radio Courtoisie qui viennent me voir et s'il y a un remerciement auquel je suis particulièrement sensible, c'est celui par rapport à Annick de Souzenel, de me remercier de leur avoir permis d'accéder à Annick de Souzenel. Et ça, c'est pas loin d'être ma plus grande fierté, à la fois en tant que journaliste et en tant que patron d'émission sur Radio Courtoisie. Et néanmoins, elle a écrit une multitude de livres. Moi, quand je suis tombé sur le symbolisme du corps humain, c'était au bon moment. Donc, et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, je le relis en ce moment même. Je passe mon temps à relire Annick de Souzenel. Je ne suis pas dans un métro sans avoir un livre d'Annick de Souzenel sous le bras. C'est comme ça, et depuis En ce qui me concerne, 2017, je rappelle qu'en 2017, nous avions en juin, enfin en juillet et en août, plus précisément, avec Adrien de la technique, j'avais demandé l'autorisation au président et à la secrétaire générale de Radio Courtoisie de l'époque. Parce qu'on m'avait dit, oh là là, déporter une émission en distanciel, pourquoi pas? Mais là, il ne s'agissait pas du fait d'Annick de Souzel et de sa spécificité, il fallait aller sur place, c'est-à-dire pas loin d'Angers, pour faire ses entretiens. Il en était ressorti 6 heures d'émission, et un exceptionnel, mais ils le sont tous, technicien de Radio Courtoisie, m'avait accompagné parce qu'il avait tout le matériel. On lui avait donné le feu vert pour enregistrer à distance. Donc on s'était rendu là-bas, on y avait passé la journée, c'était Adrien. Et à plusieurs reprises, d'ailleurs, les personnes qui étaient avec Alix de Souzel disaient, mais vous allez arrêter de l'épuiser comme ça, il faut lui laisser là un peu tranquille. Et on avait enregistré toute la journée. Il en était ressorti donc 6 heures d'émission, juillet et août 2017, dont vous avez eu donc les 3 heures le mois dernier, il y a 4 semaines, sur Annick, justement, une émission qui avait été enregistrée en juillet à l'époque. Mais donc évidemment, ces ouvrages ne s'arrêtent pas avec le symbolisme du corps humain. Elle va écrire une multitude de livres, et au moins, en tout cas, plus d'une vingtaine. J'en cite quelques-uns. L'Égypte intérieure ou les 10 plaies de l'âme. Je pourrais parler des heures, hein, de chacun de ces livres. La lettre, chemin de vie, le symbolisme des lettres hébraïques. Bah oui, parce que en fait, elle fait de la kabbale. Bah, la kabbale chrétienne, ça, c'est un élément qui crée beaucoup de quiproquos, de dissonances, et même avec des auditeurs de Radio Courtoisie. Comment? La kabbale, mais de quoi vous parlez? C'est la franc-maçonnerie, c'est tout ça. Ben non, déjà, c'est une kabbale chrétienne, c'est pas une kabbale du Moyen-Âge. Elle s'en fichait bien, Annick de Souzenel. Ce qui l'intéressait, c'est d'aller au cœur du texte sacré, et d'origine du texte sacré, rien que 2 chapitres de la Genèse. Ça a donné l'Alliance de Feu, tome 1 et 2. Rien que ça. Plus de 2000 pages de lecture, c'est du mot à mot. Et elle en a fait 2000 pages. Vous croyez qu'elle l'a délayé? Non, jamais. Au contraire, on se dit qu'elle aurait pu en écrire tellement plus. Mais il faut toujours revenir sur le symbolisme du corps humain, je le rappelle. Et donc les lettres chemin de vie, c'est ces lettres hébraïques dont on va parler avec l'invité de cette première partie d'émission. Puis après, une multitude de livres, tous plus instructifs les uns que les autres, qui ouvrent des voies, que ce soit Job sur le chemin de la lumière. Lire et relire Job. Évidemment. Et pas seulement le discours des amis avec René Girard, mais aussi le prologue et l'épilogue. Le féminin de l'être. Bah oui, on est tous en quête d'un féminin de l'être. C'est pas la femme à barbe des cérémonies, des JO, le féminin de l'être. C'est que nous avons tous en nous ce féminin. L'humanité est créée mâle et femelle. Mais il y a ce côté aussi potentiel de l'être humain, de chacun d'entre nous. C'est le féminin. Œdipe intérieur, la présence du verbe dans le mythe grec. Bah oui, elle revisite aussi les mythes. Dès le symbolisme du corps humain, Annick de Souzenel. L'arc et la flèche, l'alliance oubliée, alliance de feu, je vous le disais, le baiser de Dieu, nous sommes coupés en deux. Ah, ça c'est Jonas, mon cher Jonas, dont je parle depuis si longtemps à la radio, parce que, entre autres, c'est le signe, vous n'aurez que le signe de Jonas, hein, c'est ce que dit le Christ sur le mont des Oliviers. Initiation, ça ce sont des ouvrages collectifs. Le Seigneur et le Satan. Au-delà du bien et du mal. Attention, au-delà du bien et du mal ne fait aucune concession au mal. Que ça soit très très clair aussi, ça. Hein. Le livre des guérisons, le grand retournement, va vers toi, l'Erlera, vous savez, le Lecklera, c'est-à-dire cet ordre donné 2 fois au père des patriarches, c'est-à-dire Abraham. Elle finira sur une méditation sur la mort. Évidemment, passé 100 ans, on commence à s'interroger à ce sujet, si on ne s'y est pas interrogé auparavant. Donc Annick de Souzenel, c'est une immense aventure intellectuelle. Et pour vous en parler aujourd'hui, eh bien, je vais évoquer avec une de ses principales accompagnatrices. Je ne sais pas si elle avait des disciples, on lui posera la question. C'est grâce à elle d'ailleurs que j'ai pu entrer en contact avec Annick de Souzenel, sans qui ça aurait été plus compliqué. Évidemment, j'ai été amené à connaître Annick aussi grâce à des amis tels que le regretté Olivier Soulier, le docteur Olivier Soulier, J'avais fait des émissions avec Olivier Soulier sur le jeûne, tiens, par exemple. Et c'est lui qui m'avait donné les coordonnées en me disant, Nicolas, si tu veux échanger avec Annick de Souzenel, il y a une personne en particulier que je te recommande particulièrement parce qu'elle t'ouvrira toutes les portes. C'est pas simple, hein, passer de la voir à l'être. Quand on a entre les mains quelqu'un d'aussi exceptionnel qu'Annick de Souzenel, certains, et on peut le comprendre, ont envie de le garder un peu, la garder un peu pour elle. C'est l'avoir de la connaissance, mais il faut passer à l'être. Il faut sortir du mental, et ça, elle va nous en parler merveilleusement. C'est Suzanne Renarda. Suzanne Renarda, c'est à elle que je dois beaucoup et l'essentiel, c'est-à-dire la mise en contact à l'origine avec Annick de Souzenel. Et je la salue. Elle est avec moi en visio parce qu'elle n'est pas, ce n'est pas une Parisienne, ce que je ne suis plus non plus aujourd'hui, ce qui explique certains enregistrements. Et je la salue et je lui dis bien le bonjour et bienvenue, Suzanne, dans le libre journal de la Résistance française.
Merci, bonjour.
Bonjour. J'ai mis du temps à. Je suis désolé à vous passer la parole. J'aurais dû être beaucoup plus rapide. Après tout, il faut passer du moi au soi. Le titre de cette émission, ça m'a été inspiré en préparant cette émission, Suzanne. Et je ne sais pas si ça ressemble à l'Annick de Souzenel que vous connaissiez. Moi, je l'ai titré de façon, j'ai pas voulu dire hommage, Annick de Souzenel, trop facile. C'est éterne. À chaque fois, c'est la même chose. Ne jamais renoncer à soi. C'est en tout cas, moi, ce qu'elle m'a. Je pense de la façon la plus subtile, inspirée même dans la préparation de cette émission. Ma chère Suzanne, est-ce que vous pourriez peut-être, je disais donc, vous avez fondé, vous êtes la présidente d'une association qui s'appelle Relais de Provence, dont un des, où l'objectif premier est de diffuser la, au travers des enregistrements, la pensée d'Annick de Souzenel. Est-ce que vous avez déjà quelques mots à nous dire et ce témoignage que vous pouvez faire déjà de façon très spontanée sur Annick de Souzenel? Et puis après, on va revenir sur vous et puis sur votre relation avec Annick.
Ben, j'ai accompagné Annick depuis 1990 et c'est elle qui m'a demandé de diffuser. Elle venait sur Manosque où j'habite et je dupliquais l'enregistrement de la conférence qu'elle faisait. Et elle a dit un peu imprudemment à un stage, mais demandez à Suzanne, elle dupliquera le stage. Mais j'étais pas équipée pour dupliquer des heures et des heures. Et elle m'a dit, si, si, achète ce qu'il faut, et puis je te donnerai les sous s'il faut. Enfin, elle y tenait vraiment à ce que je me mette à diffuser. Et c'est pour ça que grâce à elle, dans beaucoup de voitures, des cassettes d'abord, 90 minutes, ont fonctionné dans beaucoup de voitures pour écouter ce qu'Annick avait à nous dire. Voilà comment ça a commencé.
Et voilà, et moi vraiment, je vous encourage sur. Il y a deux sites dont je ferai la promotion aujourd'hui. Et le premier, c'est celui d'Annick de. C'est celui de. Non, pas d'Annick de Souzenel, mais en tout cas qui parle et qui relate Annick de Souzenel de Suzanne Renarda, groupe de travail sur son enseignement et sur la symbolique des lettres hébraïques. Et de la calligraphie hébraïque, parce que vous avez aussi des talents qui ne sont pas si cachés que ça, de moins en moins d'ailleurs, Suzanne, c'est que vous faites de la calligraphie aussi sur les lettres hébraïques.
Oui.
Mais on va y revenir. Et sinon, le reste sur ce site, vraiment auquel j'encourage les auditeurs à aller, il y a les rêves aussi. Donc les rêves qui permettent un accès direct. Ben oui, c'est vrai que c'est. Et moi, j'aime bien cette utilisation des rêves parce qu'au moins, on perd pas notre temps. Et c'est sur la symbolique de l'inconscient, les rêves sont vous décrivez des messages féconds pour comprendre nos fonctionnements intérieurs et progresser harmonieusement dans notre cheminement intérieur. Avant même de parler d'Annick de Souzenel, moi j'aimerais parler un peu de vous, Suzanne Renarda. Est-ce que vous pourriez m'expliquer un petit peu ce que vous voulez dire sur les rêves, justement?
Ben, j'ai eu la chance et la malchance au départ d'être invalide très jeune et je me suis intéressée, j'ai eu le temps de m'intéresser et les moyens de m'intéresser à ces rêves qui venaient là, que je comprenais pas et j'ai fait beaucoup d'études sur ces rêves et il y a des moments où ça se déclenche et on commence à comprendre. J'avais des amis psychologues, psychiatres, tout ça, qui m'ont beaucoup interrogée et j'ai fini par faire des groupes avec elle, tout ça. Moi, je suis pas thérapeute, je veux pas faire des stages toute seule, mais accompagner des thérapeutes, je le fais toujours parce que je me suis aperçue que la compréhension des symboles, c'était pas quelque chose de facile pour tout le monde. Et j'ai une amie qui a fait de grandes études. Elle est d'abord médecin, psychiatre. Elle a fait beaucoup d'autres choses à côté, mais elle est incapable de décrypter un rêve au niveau symbolique.
Ah oui?
Or, le rêve ne parle que par symbole.
Un rêve ne
Donc,
parle que par symbole. Est-ce que
oui.
vous pouvez développer un peu, Annick? Enfin, Suzanne, pardon.
Ben, si quelqu'un vient vous raconter, oh là là, j'ai fait un rêve, j'ai pensé qu'on me violait. Il faut être sûr que la personne n'a pas été violée.
Oui.
C'est pas le problème. Le problème, il y a eu quelque chose d'un abus de pouvoir. Alors, si c'est le père ou la mère qui semblait mal se comporter, ben, c'est parce qu'il lit le journal intime ou maintenant le téléphone de la personne qui vit ça comme un viol de son intimité.
Que c'est
Et donc,
d'ailleurs.
vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, c'est le plus important. La symbolique, c'est pas quelque chose de facile. Et j'ai rencontré des gens qui avaient vraiment ce sens du symbole et d'autres qui n'y arrivent pas. Et moi, je me régale. J'ai toujours fonctionné comme ça, chercher ce qu'il y avait derrière.
Parlez-nous peut-être maintenant un peu de votre rencontre avec Annick de Souzenel, Suzanne Renarda.
Ma rencontre avec Annick, c'était en 90. Mon compagnon travaillait sur ses livres pour une association. Et je lui dis, la dame dont tu lis les livres fait une conférence à Paris. Même un stage de 2, 3 jours, c'était. Et il me dit, oh, il faut y aller. Moi, j'étais pas sortie depuis plus d'une année. J'étais en fauteuil roulant suite à une opération, un AVC. Et j'étais très handicapée, j'étais pas du tout portée à voyager, j'étais très fatiguée. Et il me convainc de venir avec lui à Paris, il organise tout, j'avais une chambre à côté de la salle de stage et donc je l'accompagne. Je vais voir où le stage se passe et je commence à reculer sans mon fauteuil pour sortir. Et à ce moment-là, Annick de Souzenel arrive, me fonce dessus. J'étais une jeune femme de 38 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je lui dis, un AVC, ça. Et comment vous le vivez? Comment c'est, comment ça? Et moi, j'ai vécu des expériences mystiques à ce moment-là, dans cette grande fracture de santé. J'étais sûre de remarcher. On me disait d'acheter un fauteuil électrique. J'étais dans une joie profonde qui était complètement paradoxale par rapport à mon état. Et Annick, on vient la chercher, on lui dit, c'est l'heure là, tu. Et elle commence son stage en me quittant et en allant vers le pupitre. Et j'essayais de reculer parce que je voulais sortir, retourner dans ma chambre. Mais au fur et à mesure qu'elle parlait, et elle me parlait directement au cœur, ça passait pas par le mental parce que je comprenais tout ce qu'elle disait.
Oui.
Et il y a eu des phénomènes très, très bizarres, mais. Cette année 90, il y en a eu beaucoup pour moi. Mon compagnon pose une question et puis je m'étais petit à petit rapprochée de lui en pensant que je ne sortirais plus, quoi. Il y avait plus d'une heure qu'elle parlait. Et elle lui dit, on fait une petite pause et je vous réponds en revenant. Et je lui dis, tu mélanges tous les plans, ta question, grosso modo, elle n'a pas de sens. Et il me dit, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as jamais rien lu d'elle. Effectivement, je n'ai jamais rien lu. J'étais troublée. Je me dis, pourquoi? Pourquoi j'ai dit ça? D'où ça me vient, quoi? Et Annick reprend la parole et elle dit, voilà, là, il y a une confusion de plans. Alors, la confusion, elle était en moi aussi, hein, parce que je ne comprenais absolument pas pourquoi. J'étais sûre que c'était ça, mais d'où ça me venait, quoi?
Ouais.
Ça a commencé comme ça, notre rapport avec Annick. Après, je suis allée beaucoup en stage chez elle. Et puis après, je me suis retrouvée seule et elle m'a dit, c'est parfait, j'ai besoin de toi, viens. Et donc, je l'ai accompagnée quasiment depuis 90 en
Donc,
France.
pendant plus de 30 ans.
Ouais. J'ai été son chauffeur, elle m'a acheté une casquette.
C'est extraordinaire.
Il faut dire que moi, je n'aimais pas être sa passagère. Annie conduisait très vite et très brusquement.
Ah bon? Ah ben.
Oui. Mais je pense que les anges l'accompagnaient parce que quand elle fonçait dans un
Un bon
rond-point,
ange gardien.
la priorité pouvait qu'y avoir que ça pour nous sauver.
C'est étonnant quand même de d'offrir à une personne qui est une de ses collaboratrices une casquette. Il y a quand même quelque chose chez Annick de Souzenel, moi, que j'ai tout de suite remarqué la première fois que je l'ai rencontrée, c'est ce côté grande dame, un peu une grande bourgeoise aussi, hein, il faut le dire. C'est-à-dire quelqu'un qui respecte, il faut respecter un certain nombre de règles. Hein. C'est pas parce que on change de niveau de conscience qu'on paie, on doit perdre quoi que ce soit des bases
Oui,
de la vie,
la bienséance, mais moi, ça m'a
des
beaucoup
codes.
amusé.
Ouais. Et la bienséance, oui, voilà, la bienséance. Ce qui pouvait
Oui.
surprendre quand on a quelqu'un qui quand même dit je vais aller par-delà le bien et le mal et qui quand même nous renvoie à la bienséance.
Oui, il y a des choses qui se font, des choses qui se font pas, c'est
Ça.
oui.
C'est tout à fait ça. Est-ce que vous voulez peut-être, avant de revenir, hein, de faire des allers-retours entre les relations que vous aviez avec elle et puis Annick de Souzenel, nous parler un petit peu, ben, engager les échanges et le récit de ce qui était la vie d'Annick de Souzenel. Je rappelle qu'en plus donc du relais de Provence de Suzanne Renarda, vous pouvez aussi évidemment vous référer, chers auditeurs, au site Arigal, qui est un peu, bon, on va dire le, voilà, Ariga, pardon, qu'est-ce que je dis? Oui, Arigah, qui est un peu le site de référence de toutes les personnes qui diffusent et contribuent à la diffusion de la pensée aussi d'Annick de Souzenel.
Ariga, c'est Annie qui a créé cette association. Ariga en hébreu, ça veut dire le tissage.
Ouais.
Et elle a créé cette association pour regrouper les gens qui travaillaient sur son travail. Et elle y a inclus ensuite l'Institut d'anthropologie qui a démarré à Angers, où il y a des cours pendant 4 ans. Alors pendant 3 ans, c'est toutes les religions, je crois que c'est 7 fois par an, des religions différentes qui viennent enseigner leur spiritualité. Et la 4e année est réservée à une œuvre, à quelque chose d'une synthèse de ces 3 années. C'est très, très intéressant et ça marche très bien. Et là, depuis qu'Annick ne donne plus de stage, il y a une troisième voie qui s'est ouverte pour que les gens proches d'Annick, proches de son travail surtout, puissent enseigner ce qu'elle ne pouvait plus enseigner. Donc, ce Ariga, c'est quelque chose de très, très important. C'est vraiment l'œuvre d'Annick qui est résumée là.
Voilà, si vous rentrez pas directement dans le symbolisme du corps humain, ne désespérez pas et allez sur Ariga. Moi, je ne connaissais pas tout ça. J'ai voulu tout de suite lire le premier livre et puis les livres sont partis après à une vitesse. Donc j'étais encore pas, si ça faisait pas si longtemps que j'étais sur Radio Courte Vie, je ne voulais surtout pas décevoir mes patrons. Donc je me suis mis à avoir une fringale d'Annick de Souzenel. Bon, en même temps, j'avoue qu'elle arrivait au bon moment pour ce qui me concernait. Parlez-nous un petit peu, Suzanne Renarda, d'Annick de Souzenel, née en 1922, une époque après, on pourrait même 11 novembre, 11, hein, donc il y a le 11 et le 22, hein, vous avez quand même la force, et puis l'extrême dualité. Elle commence, elle rentre dans la vie, Annick de Souzenel, dans la plus extrême dualité, le plus extrême conflit, la plus grande absurdité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de... Parce que vous n'êtes pas seulement la personne qui la conduisait à droite à gauche avec votre casquette, Suzanne Renard, mais aussi quelqu'un qui pouvait nous parler de la biographie d'Annick de Souzenel, qu'on rentre, allez, de façon résolue dans la vie d'Annick.
Donc, elle est née après la Première Guerre mondiale et des épreuves importantes, son père excessivement blessé, ont déstabilisé toute la famille. Et elle a été placée chez des bonnes sœurs qui comprenaient pas grand-chose à une petite fille. Sa sœur n'était pas placée en même temps qu'elle. Elle a vécu des choses assez dramatiques dans la difficulté relationnelle qu'elle avait. Ce qui l'a amenée à dire quelque chose que j'ai trouvé absolument merveilleux. On ne peut faire confiance qu'au Père divin. Et vraiment, ça a été une épreuve. et en même temps un chemin qui se traçait. Et elle disait dans quel monde absurde je suis tombée. Et en réfléchissant à l'âge adulte, elle se dit, mais si j'ai dit ça à cette époque-là, et elle en est sûre, elle se voit dans les rues, courant après sa mère qui l'attendait pas, enfin des choses très précises. Elle dit, c'est que j'avais un pressentiment, quelque chose qui était en moi, d'un autre monde qui n'était pas absurde. Et elle a toute sa vie cherché ce qui la reliait à cet avant, qui est aussi un après, une vie matérielle incarnée. Et c'est vraiment fort pour elle, ce passage.
Absurde avec sa racine, finalement, qui est liée à la surdité, à une écoute qui n'est pas là, justement. Est absurde celui qui n'entend pas, qui n'a pas la bonne écoute.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et ça l'a vraiment marqué. Et puis dans sa vie, bon, elle a fait d'abord des études de mathématiques, puis des études d'infirmière. Elle est partie au Maroc, je ne sais plus combien d'années, mais assez longtemps. Et elle avait un profond besoin de sens que tout ça ne lui amenait pas. Elle a fait une formation de psychothérapeute et ça l'a amenée vers Jung, qui a été un de ses grands maîtres. Elle a rencontré Durkheim et bien d'autres personnages de cette époque. Elle s'est tournée vers les sciences humaines, donc, et elle a été conduite à embrasser le christianisme orthodoxe
Comment
parce que
d'ailleurs, très jeune, hein, je crois, dès l'âge de 6 ans, hein, l'orthodoxie, non?
Je pense que c'est plus tard,
Ah.
parce que c'est vraiment en revenant du Maroc qu'elle est allée rue Bianchi à l'Écoff. Mais ce qu'elle avait, c'est en premier rejeté le catholicisme romain, la chrétienté romaine, parce que chaque fois qu'elle posait une question en disant pourquoi la Vierge est dessinée avec un grand coup, on lui répondait, oh, d'abord on lui répondait, tu es trop curieuse. Et ensuite, ben, les gens de l'époque savaient peut-être pas bien sculpter ou dessiner. Enfin,
C'est ce qu'elle explique, ouais, dans le symbolisme du corps
elle
humain.
est persuadée qu'il y avait autre chose derrière, qu'il y avait un sens, et elle a cherché à atteindre ce sens. Et ça l'a, quand elle est rentrée dans l'église orthodoxe, quand elle a rencontré l'église orthodoxe, elle a rencontré son maître Eugraph Kowalewski, qui est
Ouais.
devenu évêque Jean de Saint-Denis,
C'est ça.
dont son mari était très proche puisqu'ils avaient été prisonniers en Allemagne ensemble. Et puis, elle a eu en même temps, avec Emmanuel Levine, des cours de Torah, de Kabbale. Alors, elle raconte toujours que c'était dans un bar mal famé le dimanche après-midi, plein de fumée, qu'elle était allée prendre ses cours. Et dans la semaine, elle prenait des cours de théologie avec Monseigneur Kowalewski. Et qui est devenu monseigneur bien après d'ailleurs. Et tout ça, ça résonnait en elle. Il y avait un écho qui se faisait. Et donc, avec tout ce qu'elle avait comme connaissance du corps humain, il y a des choses qui prenaient sens. Elle dit qu'elle a été poussée à écrire, elle n'avait pas le choix. Il fallait qu'elle mette sur papier tout ce qu'elle découvrait dans les synergies de ce qu'on lui enseignait. Ça faisait sens là. Et là, il fallait transmettre. C'était vraiment quelque chose de très, très fort.
Il y a cette obligation de transmission, hein, en tout cas un ressenti très fort. Pour rester quand même sur l'époque absurde de surdité, et je crois qu'elle a vécu aussi au Havre, d'ailleurs où j'ai été moi-même pendant plusieurs années, ville qui a été totalement détruite, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est la ruine, la démolition, la destruction, c'est quelque chose qui va la poursuivre dans ses premières années. Je disais, né le 4 novembre 1922. C'est des époques, ce sont une génération très particulière, hein, qui est née dans les années 20, avec le crash financier aussi de 29, l'accession, les totalitarismes, le fascisme en 22 justement, et puis après le nazisme un peu plus tard. Elle est au cœur de cette désespérance européenne.
Oui, avec une faillite familiale terrible où on leur a tout pris à la maison, Ça a été vraiment quelque chose d'assez dramatique pour elle. Et en même temps, c'est ce qui l'a propulsée à chercher du sens. Il y avait du sens quelque part et pendant un temps, elle n'y avait pas accès, mais ça a été la recherche de sa vie, ce qui l'a poussée à chercher le sens qui pouvait être.
Et le premier sens, à mon avis, Suzanne Renardat d'Annick de Souzenel, il est juste le sens d'une ruine, le sens d'une faillite, c'est qu'il faut mourir
Renaître.
pour renaître.
Oui, ça c'est certain. Et dans le symbolisme du corps humain, avec ce dessin extraordinaire du chemin de vie, avec ses descentes pour ses remontées, mais descendre, c'est mourir à quelque chose, mais sans savoir où on va. Donc c'est assez délicat, assez surprenant, mais c'est un chemin qu'elle a fait sans en avoir trop le choix au début. Et puis quand elle a compris que c'était ça le chemin, descendre pour remonter, et vraiment que tout se passe à l'intérieur de nous. Et ça a été quelque chose de très, très parlant, qu'elle a regardé aussi à travers les mythes grecs, qui l'ont beaucoup impressionnée symboliquement. Elle a relu sur un plan symbolique. Parce que la notion de mythe, c'est quelque chose qui est très mal compris. On pense toujours que le mythe, c'est une historiette, c'est quelque chose d'extérieur. Le mythe, il nous parle de l'intériorité parce qu'on n'a pas de langage pour en parler. Et donc, il va nous raconter à l'extérieur une histoire de ce qui se passe à l'intérieur. Ou, par exemple, l'histoire de Toby, c'est la réalisation de Toby, soi-disant père, parce qu'il n'y a pas de Toby père et de Toby fils, c'est le chemin que fait Toby pour aller récupérer la dette, c'est-à-dire les énergies qu'il a mal orientées.
Recouvrer la vue déjà.
Oui, et après, recouvrer la vue, tout ça, parce que mais le travail se fait d'abord à l'intérieur. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire pour elle, qu'elle a pu lire dans beaucoup d'histoires bibliques, dans beaucoup d'histoires mythologiques, qu'elles soient grecques ou d'autres cultures et tout. Et elle a relié tout ça, elle a fait vraiment beaucoup de liens.
En parlant du chemin, hein, le Christ dit, je suis, quand on lui pose la question, qu'est-ce que la vérité, quand c'est l'autorité politique, évidemment, quand c'est Ponce Pilate, il ne répond pas. Quand on lui pose la question, quand les disciples lui posent la question, il dit, je suis le chemin, je suis, la vérité. C'est, la vérité, c'est un chemin. Et elle dit quelque chose, parce qu'on parlait du catholicisme, qui a eu le mérite de transmettre pendant tous ces siècles, mais qui à un moment donné a besoin, bah, peut-être aussi lui-même, de mourir pour renaître et d'être revisité ou d'être traduit sur une autre octave et un autre niveau de conscience, parce que je pense que c'est ça surtout Annick de Souzenel. Et ça, elle va ce chemin, le chemin que va réouvrir le Christ au travers sa vie sur Terre, il va nous réouvrir quelque chose qui était finalement fermé par appelons-le comme on voudra, on n'est pas obligé. En effet, Annick de Souzenel ne voulait pas qu'on appelle ça une faute, mais ou une chute ou un péché, mais peut-être même au contraire l'inverse. Mais néanmoins, quelque chose qui s'est passé sur le chemin, qui fait que le chemin, il a quand même été à un moment donné obstrué, hein. Et donc elle explique que finalement, appelons-le comme on voudra, en tout cas ce que nous partageons avec le couple originel, si on veut l'appeler le couple originel. Mais c'est pas vraiment le couple originel. Il faudrait qu'on revienne. On va revenir à un moment donné, hein, si vous voulez bien, sur le premier mot de la Genèse, hein, ce que signifie Bereshit. Ça veut pas dire au commencement. On n'est pas à s'opposer entre créationniste et évolutionniste. Tout ça, c'est de la blague. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'à un moment donné, le chemin, on en oublie on oublie finalement le chemin. Et c'est pas seulement les petites graines ou les petits cailloux qu'il faut mettre pour retrouver son chemin. C'est surtout que ce chemin, il se paie, comme vous le dites et comme elle le disait toujours, par des morts et des résurrections. C'était la seule façon d'être en chemin. Et c'est parce qu'à un moment donné, on pense pouvoir faire l'impasse ou sur la mort pour renaître que finalement, bah, tout déraille quand même.
Oui, elle partait en disant ça du mot hébreu mout, qui veut dire muter.
Et ça n'est
Et
pas
c'est
seulement mourir.
pas mourir, c'est muter. C'est-à-dire, un chrétien ne devrait pas parler de mort parce que c'est mort et résurrection. Et c'est vraiment ce qui est important, c'est la résurrection, Mais pour y arriver, alors tout le monde veut ressusciter, mais personne ne veut mourir ce qu'il est.
C'est ça.
C'est un peu embêtant, parce que ça passe forcément par ces mutations qui passent par des moments de déstabilisation pour repartir à un autre niveau. Je l'ai vécu très profondément
Oui.
et je sais vraiment de quoi je parle physiquement. Et c'est le seul chemin. Donc, il faut arriver à accepter ce qui change, les changements quand on n'est plus en accord avec son église, avec son travail, tout ça, accepter de changer pour pouvoir faire cette évolution. Et c'est pas très, très facile parce que notre vieille peau, là, elle se cramponne à ce qui est et elle veut pas lâcher parce que l'inconnu, c'est terrible. Par exemple, dans les plaies d'Égypte,
Oui.
guidé par Dieu de jour et de nuit, le peuple se révolte contre Moïse en disant, on était esclaves, d'accord, mais on savait où on allait dormir et qu'est-ce qu'on allait manger. Et donc, la liberté fait peur à l'homme. Parce que c'est le tout nouveau, le tout autre, c'est pas, alors que l'esclavage, il savait de quoi allait être fait l'avenir proche. Donc, c'est quand même terrible de se dire que la liberté nous fait peur.
On peut parler de la peau aussi, hein. Vous disiez la vieille peau, mais la vieille peau, les tuniques de peau, lorsque justement Adam et Ève quittent l'Éden, et puis cette peau, c'est aussi le chez Job, c'est-à-dire que juste peau jusqu'à la dernière peau, et Dieu sait comme ça fait mal quand on arrache la peau.
Oui, oui,
C'est une
oui.
douleur.
Oui. Mais la peau, comment dire, elle matérialise à l'extérieur tout cet inaccompli qui est à l'intérieur de nous et qu'on n'arrive pas à intégrer petit à petit, ce qui est le travail à faire, d'intégrer tout cet inaccompli qui a été appelé le féminin. Alors, vous parliez du couple primordial. Il n'y a pas d'Adam et Ève au paradis. Il y a Dieu créé Adam. Et ensuite, il lui montre son isha, son autre côté, son féminin intérieur. Le problème, c'est que dans les traductions, on a appelé Ève le féminin intérieur, on a appelé Ève la terre-mère, on a appelé Ève la vivante. Enfin, il y a plein de mots très différents en hébreu qui sont des fonctions différentes et qui sont traduits en français par le même mot. Rava, la femme extérieure, elle arrive beaucoup plus tardivement.
Il y a une grande œuvre de déculpabilisation. Ce qu'elle pensait, Annick de Souzenel, et elle en voulait d'ailleurs, par exemple, beaucoup à Augustin de Paume, dont elle refusait de dire Saint-Augustin, je me souviens. C'est-à-dire sur la culpabilisation de certaines traductions, celle des Septante, celle de Saint-Jérôme. Et ce qu'elle dit, c'est la kabbale, finalement, pour elle, n'est qu'un instrument, non pas magique. Je le redis, la cabale d'Annick de Souzenel n'a rien à voir avec la magie de la cabale du Moyen-Âge. On n'est pas du tout dans la magie, justement. On est dans le miracle de l'écriture, le miracle de la vérité révélée. Mais
Oui, mais
la ca... Oui.
ce qu'il faut dire, c'est que notre Premier Testament, notre avant on disait ancien, maintenant on dit Premier Testament, c'est la Torah des Hébreux. Et les Hébreux ont conservé le texte dans leur intégralité, il n'a pas
C'est ce
bougé
qu'on
depuis
leur doit, oui.
là, donc on leur doit ça. Et nos traductions sont des traductions, alors de l'hébreu c'est passé au grec, du grec au latin, du latin au français. Comme dans, on ne peut traduire qu'à son propre niveau de conscience, chaque fois les traductions ont été abîmées, je vais dire, par le volontairement ou pas, parce que des fois ça paraît tiré
Et
dans
le
un sens.
premier mot, c'est Bereshit, justement, qui a été traduit par au commencement. Alors au commencement, bah, ça a donné lieu à toutes les quiproquos, les incompréhensions, parce que si c'est au commencement, c'était au début. Et alors nous dire, bah oui, il y a eu d'abord un homme et une femme, ou même le mâle et femelle, pourquoi pas aussi pendant qu'on y est, c'est-à-dire le mythe, une sorte de mythe de l'androgyne, avant, qui finalement va avec les âges de la cité grecque, enfin, c'est-à-dire entre les âges d'or et les âges de fer, mais c'est pas du tout ça. Béréchit, ça a jamais voulu dire au commencement. C'est
Non,
ça?
et alors pour parler de ça, il faut quand même parler du temps. Il y
Allons-y.
a temps essentiellement. Il y a le temps qui nous permet d'être à l'heure pour commencer une émission, par exemple. Celui-là, on le connaît bien.
Certes.
Il y a le temps intérieur. qui correspond à l'accompli et à l'inaccompli en hébreu, les deux modes du verbe, dont on a une petite idée quand le temps passe vite ou lentement selon ce qu'on fait. Et puis, il y a le dernier temps qui est un non-temps, qui est l'éternité. Et tous les textes devraient être lus au présent parce qu'ils sont de toute éternité. Dieu crée. Il n'a pas créé un jour une fois pour toutes et il s'est retiré, c'est fini. Dieu crée, c'est un présent,
C'est
un
ça.
éternel présent.
C'est ça.
Donc, quand on met dans le commencement, on inscrit toute cette histoire biblique dans le temps, ce qui est une erreur magistrale.
Ah oui.
Bereshit, si on prend le Beit, c'est Dan, et les trois lettres qui suivent, c'est la lettre Resh en plénitude, parce que vous entendez bien quand je dis Resh, je ne dis pas comme en français R. Il n'y a pas que, hein, c'est un mot entier. Donc, Resh, le mot Resh qui est la lettre Resh développée. Resh, c'est la tête ou le principe. Chouraki traduit par en tête. Je ne
Oui.
sais pas si c'est bien ou mal, mais c'est juste grammaticalement. Au commencement, grammaticalement, ce n'est pas juste. Donc, c'est dans le principe, Dieu crée. Et le Béréchit, donc on peut faire de la cabale avec ça. Si on prend les deux premières lettres et les deux dernières, on a Brit, qui veut dire l'alliance.
Oui.
Les mots qui restent au milieu, Esh, c'est le feu. Et Annick a appelé alliance de feu les quatre livres et non pas les deux qu'elle a écrits sur la Genèse. Et ces quatre livres qui sortaient chez Dangle en un format assez facile à lire ont été réduits à 2 x 2
Oui.
en livre de poche.
C'est ça.
Et donc, il s'appelle alliance de feu, c'est le mot Bereshit. Mais le mot Bereshit, on peut encore le lire autrement, c'est-à-dire la lettre Beit en plénitude. C'est la première, il y a 6 lettres, c'est la première et les deux dernières lettres. Et le mot Resh, c'est le reste. Donc, c'est le développement du Beit et du Resh qui donne le Bereshit. Je sais pas si je me fais bien
Mais
comprendre.
continuez, vous avez encore. Et après, on va faire une petite pause à un bobino. Donc, allez-y, et puis on va essayer d'intégrer tout ça.
Mais
Terminé.
Beth et Resh, Bar, c'est le fils.
Alors.
Donc, le début de la Genèse, le Christ dit, un fils, je pose.
C'est ça.
Sa création, elle est posée.
Elle
Et
le
elle est posée.
dit. Il s'est dit dès le début, bien avant 2000 ans, il y a 2000 ans, bien avant la naissance.
Et oui, et
Du fils unique.
c'est pas dans le temps, c'est pas inscrit dans le temps, c'est de toute éternité.
C'est le
Je dis.
projet de la création. Je pose un fils.
Oui. Et en même temps, en chacun de nous, il y a cette image du Fils, cette étincelle divine qui nous fait avancer, c'est-à-dire qui nous fait avoir un goût de dépassement. Ce qui est traduit en hébreu par la plus petite lettre de l'alphabet, le yod, qui profile le nom le plus sacré pour des hébreux, le tétragramme, yod et vavé. Que
Sachant que
les
le.
hébreux, même pas quand ils le voient écrit, yod et vavé, ils disent Hachem, le nom, avec des majuscules partout, ou Adonai, mon Seigneur.
Sachant que le bar, le fils, doit devenir le ben, c'est-à-dire le fils accompli. Ce qui explique pourquoi il nous crée à son image, mais pour la ressemblance. C'est-à-dire qu'il y a cet accomplissement. On n'est pas, c'est pas parce qu'on est fait à l'image qu'on est fait à la ressemblance.
Ça, c'est
Et.
une des grandes erreurs de traduction, hein.
Aussi,
L'homme
oui.
est fait à l'image et à la ressemblance. Il est fait Betselem dans l'image. Et plus loin, Dieu dit que damotez-nous, capables de notre ressemblance. Donc, le chemin de l'image à la ressemblance, c'est tout le chemin que nous avons à faire dans notre vie.
C'est ça. Et il faut déligoter, libérer le Barabbas, c'est-à-dire le fils du père, Barabbas, bah oui, pour. Il y a tellement de proximité finalement entre celui qu'on va libérer et puis celui qu'on va crucifier. Mais il faut que l'un assume ce chemin pour qu'on libère le Bar, le fils, l'image, pour lui redonner le chemin vers la ressemblance, lui donner la possibilité qu'il arrête d'imaginer qu'il est déjà arrivé, mais qu'il a tout encore à faire et tout ce chemin. Parce que le septième jour, c'est qu'un début, c'est pas une fin.
Et le Christ l'a pas fait à notre place, il l'a fait pour que nous puissions le faire.
Pourquoi là? Surtout pas à notre place. faut pas se dire que voilà, c'est réglé, c'est fait.
Non,
Absolument.
parce qu'on est libre, libre, libre. C'est quelque chose de très important. Et on ne peut plus se permettre de dire s'il y avait un Dieu, ça n'existerait pas. On est créé libre et on vit les conséquences de nos actes.
Et on vit les conséquences de nos actes. Eh ben, Suzanne Renarda, on fait cet hommage à Annick de Souzenel et on parle de l'ensemble de ses ouvrages, dont le symbolisme du corps humain. On revient, si vous le voulez bien, juste après ce petit bobino.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Ne jamais renoncer à être soi, avec Annick de Souzenel, dont c'est l'hommage. Elle nous a quittés le 11 août 2024. Elle était entrée dans sa 102e année. Elle est née le 4 novembre 1922. Dans cet entre-deux, dans cette Europe qui se suicide, dans cette absurdité, dans cette absence de sens. Et donc elle va retrouver un sens parce qu'elle va être à une écoute. Écoute, Vierge d'Israël d'ailleurs, tiens. On pourrait en parler aussi de cette écoute-là, de ce niveau d'écoute. Suzanne Renarda, qui est la présidente fondatrice de Relais de Provence, qui va diffuser, qui aide à la diffusion de la pensée d'Annick de Souzenel. Il y a cette qualité d'écoute aussi, hein, toujours. Cette écoute intérieure, Suzanne Renarda, dans l'œuvre d'Annick de Souzenel.
Oui, et dans le monde juif, il y a ce Shema Israël, écoute Israël, qui est répété sans cesse, régulièrement, écoute, sois attentif, écoute. C'est vraiment dans ce Shema, il y a le Shem, le nom, qui est le Yod Evavé, ce nom profond qui nous habite chacun de nous et que nous avons à devenir. Et Annick de Souzenel a beaucoup travaillé sur ces thèmes hébraïques, parce que c'est ce qui a donné du sens. On n'est pas des chrétiens, on est des judéo-chrétiens, il ne faut pas se couper de nos racines. Et elle dit que ce qui l'a bouleversé au départ, c'est le fait de rencontrer l'arbre des Séphirot,
oui.
Son maître.
On peut en dire quelques mots, cet arbre.
Oui, alors l'arbre des Séphirot, on pense que c'est quelque chose de... On ne sait pas trop d'où ça vient, tout ça. C'est Moïse va expliquer... Dieu va expliquer aux frères et à la sœur de Moïse, « À vous, je vous parle par songe, mais à mon serviteur Moïse, je lui parle face à face et lui voit ma forme. » Donc, c'est quelque chose, là, Dieu a-t-il une forme?
Oui.
En tout cas, Dieu s'incarne et il prend la forme de l'homme, donc cette forme, elle est bien quelque part. Et cet arbre des Séphirot, c'est un des dessins qu'a fait Moïse après avoir vu la forme de Dieu. Donc, il en a fait plusieurs, il en a fait en volume, il en a fait des concentriques, tout ça. Celui qui est resté, c'est ces trois triangles. Donc, il y a un triangle pointe en haut qui se reflète deux fois dessous avec un triangle pointe en bas.
C'est ça.
Et nous avons à remonter cet axe. Le dessin donc, des 10 séphirotes qui composent l'arbre des séphirotes forme un éclair. Et les Hébreux disent que le monde a été créé par l'éclair. Et quand on arrive en bas, ça descend tout droit vers le bas. Et là, il y a la création. Et nous avons à remonter. Cet arbre des Séphirot dessine trois matrices, et quand nous les remontons, c'est la matrice d'eau, la matrice de feu, la matrice du crâne, qui existe dans toutes les traditions. Les Chinois parlent de champ de cinabre, pelvienne, thoracique et crânien, mais toutes les traditions, c'est Jean Abbe qui avait écrit un gros livre sur toutes les traditions qui se servent de ce dessin avec ces 10 pointes matérialisées. Et nous avons à remonter. Alors,
et ces trois matrices, elles donnent, il y a des portes pour passer de l'une à l'autre, dont ce fameux passage de la porte des hommes.
Mais avant de passer la porte des hommes, on patauge longuement dans la matrice d'eau.
C'est ça.
Et dans la matrice d'eau, psychologiquement, j'ai raison, tu as tort, je ne me remettrai pas en question, il n'y a aucun moyen d'évoluer tout ça.
Ouais.
jusqu'à ce qu'on sorte de cette matrice d'eau, avec ce passage de la porte des hommes, pour rentrer dans la matrice de feu. Et dans la matrice de feu, là, on va faire des rencontres avec chacun de nos inaccomplis qui vont se montrer à nous, faire des face-à-face, et nous avons là à les travailler. Et puis nous passerons peut-être un jour la porte des dieux pour sortir de la matrice de feu, entrer dans la matrice du crâne. La matrice du crâne en hébreu, c'est le mot Golgotha, ça devrait parler à des chrétiens. Mais dire ce qui se passe au niveau du Golgotha, c'est difficile. Les mythes nous en parlent un peu, mais autant dans la matrice d'eau et la matrice de feu, on a les prémices ici et maintenant. Autant le Golgotha, le Christ le vit qu'après sa mort aussi. Donc,
Ouais.
on ne peut pas en parler aussi clairement.
Il descend aux enfers, écrase la tête du séraphin diabolique, évidemment, et on intègre l'énergie, parce qu'il faut que toutes les énergies soient réintégrées. Mais tous ces passages de portes sont extrêmement douloureux, parce qu'une porte, d'ailleurs, on pourrait parler du Dalet, et vous allez en dire quelques mots, d'ailleurs, Suzanne, mais les portes, ça se paie d'une souffrance, d'ailleurs, souvent d'une infirmité. On pense à Jacob, puis finalement le passage de cette porte des hommes, c'est ce combat qui a été si bien décrit, peint par Delacroix, tableau que l'on retrouve encore évidemment dans une des plus grandes églises parisiennes, qui montre le combat avec l'ange, évidemment.
Alors le Dalet, c'est comme le 40, le même, il y a toujours un arrêt et un passage.
C'est ça.
On connaît mieux dans le mot de quarantaine que dans le 4, mais la porte, on ne la traverse pas, hein. On s'arrête, on ouvre, on passe. Donc c'est une étape bien délimitée là, au passage des portes. Et c'est vraiment important. Le Christ a vécu dans sa vie, même si c'est pas est bien expliqué, mais il le vit. Sa matrice d'eau, il la vit dans sa vie, avant sa vie publique,
C'est ça.
avec ses parents, il vit sa matrice d'eau. Et puis, la matrice de feu, il va la vivre dans sa vie publique, où il va rencontrer un à un tous les inaccomplis de
Tous
l'humanité.
ces démons, tous ces miracles qu'il va faire, cette libération, évidemment.
On voit le miracle comme une baguette magique, alors que lui descend dans l'inaccompli de la personne
Ça.
parce qu'il est, il le peut, il intègre son inaccompli et par conséquent la personne guérit. C'est ce que nous avons à faire chacun de nous en nous, c'est-à-dire aller regarder dans chaque sentiment qui remonte à la surface de jalousie, d'énervement, ça, comprendre le pourquoi, commencer à le nommer et ensuite essayer d'intégrer, de comprendre pourquoi. J'ai cette jalousie, pourquoi j'ai ce sentiment, pourquoi cette personne m'inspire ça. C'est toujours quelque chose qui est au fond de nous, qui est à sortir et aller regarder en face, les yeux dans les yeux, pas se cacher. Donc ça, c'est la matrice de feu. Et ensuite, la matrice du crâne, le Golgotha, ben, vous avez pas mal décrit ce qui doit s'y passer, ce qui a dû s'y passer, ou ce qui se passera, ou ce qui se passe de toute
Ça
éternité.
va de Jonas à Jean, évidemment, puisque Jonas, après avoir prédit cette destruction qui n'aura pas lieu de Ninive, a encore une autre épreuve, avec le ricin et avec le crâne fendu en deux. Et puis vous avez ça, évidemment, avec Saint Jean et avec l'Apocalypse de Saint Jean, qui est aussi un passage, à mon avis, dans cette matrice du crâne. Mais je pense que ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui, en tant qu'humanité, puisqu'il peut y avoir un décalage, parce qu'il y a des hommes peuvent passer toutes ces. C'est ce qu'on dit toujours, mâle et femelle, là-dedans, là-dedans, c'est à la fois collectif et puis ça va être individuel, tiré de Isha, car tiré de Ish, qui n'est pas Hawa, Isha, mais qui va devenir Hava, parce qu'elle va perdre justement son yod. Mais il y a deux aspects dans la Genèse, l'aspect collectif et l'aspect individuel. Et donc, si on peut franchir toutes les étapes, et peut-être que certains ont déjà franchi toutes ces étapes dans le passé, par contre, l'humanité, elle est en phase. C'est ce que pensait fondamentalement Annick de Souzenel. Il faut en parler de cette actualité. C'est-à-dire que ce qu'elle appelait la Pâque des nations, ce passage de la porte des hommes pour l'humanité. C'est-à-dire que nous sommes appelés, disait-elle, à un passage très particulier aujourd'hui. Cette humanité, justement.
Oui. C'est difficile de parler d'Annick au passé, je suis
Oui,
comme vous.
ben, alors on en parle au présent, comme ça c'est plus simple.
J'aimais beaucoup un thème qu'elle nous a développé de masse critique, c'est-à-dire que quand l'humanité aura suffisamment évolué, c'est le monde entier qui évolue. Enfin, quand un nombre suffisant de personnes auront évolué, il y aura un basculement vers la spiritualité. C'est un peu le levain de la pâte. C'est pas, il faut pas qu'il y en ait énormément, mais il faut qu'il y en ait un certain nombre qui bascule pour que l'humanité puisse évoluer.
C'est un petit reste.
Oui, c'est ça. Le sacré, c'est ça, le petit reste. Elle parle de ça quand elle parle de ce bouleversement qui attend l'humanité. Et nous, on attend le retour du Christ. Salem était beaucoup en colère parce qu'elle dit, mais c'est pas nous qui attendons, c'est lui qui attend pour revenir, que nous soyons aptes à le recevoir. Et donc, ça inverse la chose, c'est-à-dire que nous avons chacun de nous, et c'est une grande responsabilité, à faire un travail à l'intérieur de nous de spiritualisation, de tout notre inaccompli. Alors la spiritualité, c'est pas planer, je suis près de Dieu ici et là, c'est spiritualiser la matière, c'est vraiment un travail concret de regarder nos inaccomplis et de les accomplir et de faire cette évolution de spiritualisation de l'être qui change tout dans la vie.
Mais elle incitait toujours, en tout cas, elle ne réduisait jamais, parce que c'est le risque, et puis aussi des développements personnels, du New Age, de toutes choses dont elle se défiait d'ailleurs, Annick de Souzenel, hein, il faut bien le dire. C'est-à-dire toujours réduire à l'individu, mais non, c'est une tension extrême toujours entre l'individu et le collectif. Il faut que les deux aille de pair, ça c'est, et c'est ce qui est le plus difficile. Elle dit d'ailleurs, notre époque, elle est entre ce qui était holistique ou ce qui était au contraire totalement individualiste, c'est trouver et vivre et avancer du fait de cette tension justement entre le collectif et l'individuel.
Oui. Mais pour chaque personne doit faire sa part de travail.
Alors
Et
oui.
c'est pas un travail égoïste parce que plus je vais vers moi-même, plus je vais vers le collectif. Et on a des figures comme Padre Pio qui ont fait tout ce travail et quand ils avaient une personne devant eux, ils connaissaient tout d'elle parce qu'ils étaient reliés par ce noyau divin. En chacun de nous qui est universel et qu'il avait l'information de ce que la personne était. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un très bel exemple du chemin qui est à faire, qui n'est pas un chemin égoïste, mais que chacun doit d'abord commencer en lui-même.
Peut-être le moment de revenir sur ce Lerlera, va vers toi, ce qui est un grand moment avec Abraham, évidemment, et c'est deux fois, il lui dit, hein, il lui dit pas une fois, c'est deux fois. D'abord, il quitte une terre, et puis ensuite, il lui redit au moment de ce qu'il perçoit d'abord de façon insensée, absurde, comme un sacrifice de son fils.
Oui.
Qu'est-ce que c'est que ce retournement?
Alors pour le monde juif, la Teshuvah, c'est vraiment ce retournement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mythe de l'exil, j'espère qu'on aura un peu le temps d'en parler, on a tout balancé à l'extérieur. Tous nos pôles d'attraction sont à l'extérieur. Et on n'a plus rien gardé pour notre évolution intérieure. Et à un moment donné, il va falloir faire cette teshuva, ce retournement, et donner, avant on donnait, enfin, il y avait des 10% de son salaire au monde religieux, enfin, aux églises, tout ça. C'est symbolique. C'est donner 10% de mon temps à prier, 10% de mon temps à faire du bien, 10% de mon temps à écouter l'autre, à être, ça. C'est vraiment quelque chose qui nous est, demander d'une autre façon et d'une façon plus intérieure.
Et puis depuis qu'on ne l'a plus fait, ben maintenant c'est plus de 50% à l'État. Il fallait choisir. Hein. On ne veut plus donner les 10% à Dieu, ben c'est pas grave, tu donneras beaucoup plus à l'État.
Mais le problème, c'est qu'on n'a pas le choix, qu'on ne le fait pas
En
volontairement.
plus. Mais je vous en prie, c'est vraiment, Suzanne, c'est cette émission, c'est l'émission d'Annick, donc c'est votre émission aussi. Et donc vous voulez parler du mythe de l'exil, allez-y, je vous en prie, parlez-en.
Alors, j'avais prévu de parler. Alors, le mythe de l'exil, donc, Adam est créé et après, à partir du moment où Adam est créé, ce n'est plus Dieu qui fait, Dieu qui dit, donc Dieu Elohim en hébreu, qui dit, qui fait, voilà, c'est la parole qui crée. À partir du moment où l'homme est créé, c'est Yod et Vavé Elohim qui fait, forme, façonne. Entendez, Yod et Vavé, il y a une synergie entre l'étincelle divine en l'homme et Elohim, qui est le Dieu créateur, qui n'est pas le Dieu absolu. Le Dieu absolu, on n'a pas de nom, c'est l'innommable, c'est le Très-Haut, on ne sait pas comment parler de Dieu. Elohim, c'est le Dieu dans sa fonction créatrice. Oui. Et une fois que Dieu a créé, il a accouché de sa création, mais il a posé en elle une étincelle divine pour que sa création puisse revenir à lui, avoir ce désir en elle, qui est un désir de dépassement, un désir que les ados ressentent en faisant des exploits sportifs, des choses comme ça, qui est orienté vers leur corps, vers leur développement corporel, mais qui est fondamentalement inscrit en nous pour ce dépassement. Et à partir de là, cette synergie, ça veut dire que Dieu ne peut rien faire sans nous, c'est dur de dire ça, et que nous ne pouvons rien faire sans lui. Tout se passe dans une synergie divino-humaine.
C'est ça.
Donc, apprendre à demander de l'aide aux anges, aux forces supérieures, à qui vous voulez, au Christ, à Marie, c'est chacun selon sa foi et sa sensibilité, mais seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et dans cette synergie divino-humaine, il y a vraiment des choses qu'on appelle miracles, mais il y a vraiment des réalisations qui sont remarquables. Donc, cette création, donc l'homme est créé, et ensuite, il y a des textes très mal traduits. Dieu lui montre les animaux et lui demande de les nommer,
oui,
pour qu'ils deviennent son nom. Ça, c'est très mal traduit en hébreu, de l'hébreu. C'est-à-dire que nous allons, Adam, chacun de nous, nous sommes un Adam, nous allons nommer nos animaux intérieurs, ces animaux symbolisant toutes nos pulsions, nos désirs, tout ce qu'il y a en nous.
D'où l'histoire de Noé, hein. Juste parenthèse, mais enfin, voilà, d'où l'histoire de Noé et de l'arche, hein. Voilà, c'est les mêmes animaux. Hein.
L'arche, c'est à l'intérieur de nous, hein.
Bien sûr.
C'est vrai. Et vraiment, on a. Alors, ce qui est amusant dans l'arche de Noé, c'est que les animaux rentrent comme ça et ils sortent par couple.
Oui, ordonné.
Voilà, Noé sort avec sa femme, chaque fils avec sa femme, enfin, ouais. Ça, et les animaux sortent par couple. C'est-à-dire que ces mariages intérieurs sont faits.
Et les hommes se rendent compte enfin qu'ils ont des femmes, c'est pas mal ça aussi.
Plus
sans le père de Noé, je crois qu'il s'en était rendu compte le premier, hein, dans les patriarches, enfin les premiers.
Oui, donc ça se passe dans l'arche, ça se passe à l'intérieur de nous. Et vraiment, quand on commence à faire ce travail de conscience et de travail sur soi, il y a vraiment une évolution qui se fait. Et quand l'évolution se fait à l'intérieur, elle se fait à l'extérieur. Annick disait quelque chose que j'ai toujours eu du mal.
Dans Yod et Vavé, il y a deux et, hein, donc il y a bien un intérieur extérieur. Je suis désolé de vous avoir juste.
Non, mais ça, on reverra les deux et dans le corps humain. Mais du coup, je ne sais plus ce que je disais. Mais c'est
voilà,
pas grave.
C'est de ma faute.
C'est pas grave.
On était sur l'exil et sur le. On pourrait revenir peut-être encore un peu par rapport à cette entreprise de culpabilisation, parce que j'y pensais à vous écouter, Suzanne Renarda, dans cet hommage à Annick de Souzenel sur Radio Courtoisie, dans le Libre Journal de la Résistance française. C'est les erreurs de traduction qui sont funestes. Parce que, par exemple, allez, je vais vous laisser retraduire ou aider un autre niveau de conscience, même si chaque niveau de conscience est important, parce que c'est pas parce qu'à un moment donné, il fallait peut-être, en effet, d'avoir un dieu vengeur. Il fallait qu'une église du serpent accepte cette idée de confondre Elohim et Yod et Vavé, alors qu'elle explique que dans les premiers chapitres de la Genèse, ils sont tous les deux unis, et que le piège du Satan diabolique, du serpent, est justement de l'appeler seulement Elohim, et d'oublier cet autre aspect qui va permettre d'en faire un dieu vengeur. Et évidemment, l'Église, et les Églises, toutes les églises. Et alors là, on peut aussi parler de la synagogue ou de la mosquée, où on en fait un dieu vengeur. Ce qu'il n'est absolument pas, explique Annick de Souzenel. Mais à un moment donné, peut-être dans l'humanité, il fallait en passer par là, parce que ça fait partie du chemin. Il faut mourir à ce dieu vengeur, à ce dieu jaloux, pour avoir ce dieu d'amour. Et entre autres, sortir de certaines formes de culpabilisation. Une de celles-ci, en tout cas, elle passe toujours par des traductions erronées, dit Annick de Souzenel et vous, à sa suite, Suzanne Renarda, par exemple, poussière, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ça, c'est horrible, parce que c'est terrible.
Tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière.
Oh là, bon sang.
Le mot poussière, c'est le mot afar. Il y a le haïn qui veut dire la source et le par qui a donné le fruit, qui est la fécondité, voilà. La source de fécondité. Et il est dit, tu es poussière et ta choum, c'est un impératif. Et vers la poussière, retourne-toi. C'est-à-dire, retourne vers le potentiel qui est en toi. Le chemin, il est là. C'est ça. Et ce n'est pas du tout quelque chose de, tu n'es que poussière et tu es rien et tu retourneras.
Oh, rien. Comme ça, c'est facile, au moins. Puis c'est vraiment la porte ouverte à toutes les dictatures. Vous n'êtes rien et vous ne serez jamais rien.
Voilà. Oui, alors que la grandeur de l'homme, c'est de devenir un dieu. Dans le Cantique des Cantiques, Annick parle des trois mariages.
Oui.
Le mariage extérieur de l'homme avec la femme, de la femme avec l'homme, qui est béni dans notre monde d'exil, mais qui n'existe que dans le monde d'exil, comme le temps, qui n'existe que dans notre monde d'exil. Donc, ce mariage extérieur, le mariage intérieur de moi avec mon inaccompli à l'intérieur de moi.
Son féminin intérieur, donc.
Le féminin intérieur, et au fur et à mesure que j'épouse ce féminin intérieur, je deviens, que je sois homme ou femme, féminin par rapport à Dieu, pour être épousée de Dieu, réintégrée dans le sein divin. Je ne sais pas comment on peut le dire, parce que c'est des notions théologiques très, très élevées.
Mais c'est Saint-Irénée de Lyon le disait, il faut que Dieu s'est fait homme pour que l'homme se divinise. Mais on oublie la fin. C'est pas seulement Dieu s'est fait homme. Pour... Et donc oui, Dieu s'est fait homme pour que l'homme se divinise. Oui, et donc, il est content, Dieu, l'homme est aussi un Dieu. Non, mais c'est pour l'épouser.
Oui.
C'est pour justement, c'est-à-dire que il y a, puisqu'on est toujours épouse. C'est pour ça, mâle et femelle, il y a cet aspect, évidemment. Mâle et femelle, d'ailleurs, il ne faut pas du tout l'entendre comme on nous le serine ou comme on a pu le voir aussi avec les cérémonies des JO, mâle et femelle, comme si c'était lié à la sexualité. Elle explique, Annick de Souzenel, que mâle et femelle, et je vais vous le laisser, je ne vais pas le traduire moi-même, Suzanne,
mâle,
mais...
Le mâle, c'est se souvenir.
Le mâle, c'est voilà.
La or, se souvenir. Et la femelle, c'est nikva, c'est un trou. C'est-à-dire un potentiel sans limite, énorme, qui est à l'intérieur de nous. Parce qu'en nous, il y a notre, on va dire, parler en termes modernes d'inconscient personnel, puis après il y a l'inconscient familial, l'inconscient qui parle très fort hein, en ce moment dans nos sociétés, les problèmes familiaux, tout ça qui essaie de ressortir, c'est assez troublant.
Oui.
Puis l'inconscient d'une nation, puis l'inconscient collectif, on a toutes les couches, tout ça, donc... Tout ce travail il se fait petit à petit en chacun de nous pour cette évolution, pour cette mutation. Et aller épouser son inaccompli, et c'est quand suffisamment de personnes auront fait ce travail d'accomplissement que la Terre pourra basculer, parce que nous serons alors épousés de Dieu, nous serons épouses de Dieu. C'est le but. D'ailleurs, dans l'arbre des Séphiros, c'est assez amusant, parce que le monde juif a beaucoup de, comment dire, d'images par rapport à la sexualité ou au mariage. La dernière séphira, Malkout, c'est la reine, c'est aussi appelé la reine.
Oui.
Et la première en haut, Keter, la couronne, c'est appelé le roi. Et le but, c'est que la reine aille jusque dans la chambre du roi. C'est-à-dire qu'on remonte tous ces niveaux de conscience, ces trois matrices, pour aller carrément jusqu'à Keter, la couronne, et être totalement réalisé.
Et ça me fait penser tout de suite dans le symbolisme du corps humain, c'est les mots, ces mots. Vous parlez de la chambre du roi, et puis pourquoi ne pas... Vous parlez du nom, du Shem, du nom. Il y a le palais, tiens. C'est bizarre.
Oui.
Hein, c'est dans le, dans la qualification de justement de ce qu'on a dans la bouche ou de la couronne. Tiens, on met des couronnes pour les dents. Tous ces
Mais
aspects. Est-ce que vous pouvez nous en dire? Parce que c'est un le symbolisme du corps humain, ce livre, ça peut se lire à différents niveaux, mais c'est un émerveillement de tous les instants. Plusieurs centaines de pages, avec aussi des illustrations, un vérité. C'est vraiment un émerveillement.
oui, le problème, c'est qu'elle pensait que ce serait le seul livre et qu'elle a mis tout ce qu'elle savait dedans.
C'est ça.
Donc, c'est un peu touffu. Et Annie, c'est quand même beaucoup plus facile à écouter à l'oral qu'à l'écrit.
Ah
Elle
oui.
a des phrases qui font une demi-page. Et quand vous arrivez au milieu, il faut un peu réfléchir où était le commencement. Mais quand on a compris l'évolution qu'Annick fait en partant des pieds, on peut en parler.
Allons-y.
Si vous voulez, dans ces trois matrices, il y a deux symboles dont Annick s'est servie pour le symbolisme du corps humain. Il y a l'arbre Tessé-Firot, ces trois triangles, et il y a le yod évavé écrit sous la forme de l'épée. Ce yod évavé, Annick l'a vu, elle a eu un flash, elle a dit, tiens, c'est bizarre. Et elle va chez un ami qui avait le Zohar, cet homme, elle en prend un au hasard. Le monde musulman dit que le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Donc, elle en prend un au hasard, elle l'ouvre au hasard et elle tombe sur la phrase suivante. Yod evavé est une épée, le yod est le pommeau, le vav la lame et les deux tranchants. Et c'est le symbolisme de notre corps humain, avec le yod qui est la tête, le vav la colonne vertébrale, le lieu de nos mariages, le 6, et les deux hé, les deux poumons, qui se termine par cinq doigts parce que le hé vaut cinq. Et nous sommes à l'image de ce yod évavé.
Ça. Et c'est 5, Vav c'est 6, et c'est 5 plus 5, c'est un plus, et ça fait 10 qui est iode. Ben oui, c'est quand même.
Fait 10 quand le vav fonctionne en addition. Mais pendant très longtemps, le vav va fonctionner en répétition.
Ouais.
Et on va voir le 6666, qui est le nombre de la
C'est
bête,
ça.
qui
Ça
est le.
patine.
Le micro-sillon rayé, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours pareil, il n'y a rien qui se passe. Quand il fonctionne en addition, on a pris le pas de spirale et tout est toujours nouveau, on rentre dans la notion d'émerveillement. C'est vraiment quelque chose de très différent, c'est une façon de regarder le monde qui est totalement différente. Alors.
On rappelle que nous aurons en seconde partie Bertrand Vergely qui a beaucoup parlé de cet émerveillement, mais je vous laisse continuer évidemment, Suzanne.
Donc, ces trois matrices que nous allons faire, à chaque niveau, il y a une base de la matrice, un pied. Alors, c'est pied, rein, oreille. Chaque fois, la base de cette matrice, c'est les pieds pour la matrice d'eau, les reins pour la matrice de feu et l'oreille pour la matrice
Or,
du
ça se
crâne.
ressemble. Et Annick de Souzenel, quand elle écrit le symbolisme du corps humain, les notions de fractal, tout ça, on ne peut pas dire que c'était vraiment d'actualité encore. Et pourtant, elle définit ce corps fractal aussi dans ce livre.
Tout à fait. En parlant de l'oreille qui récapitule tout le corps entier, le dessous et aussi, enfin, il y a beaucoup de thérapies qui se sont basées
Et puis
là-dessus.
l'embryon, ce qui
Oui.
d'ailleurs la pousse à la notion du zera aussi, du zéro, du germe. Elle dérive le zéro du mot de zera, qui veut dire germe.
Zera, c'est la semence,
Ouais,
vraiment
ouais.
le zera, la semence. Et le aïn qui ne se prononce pas, qui est muet, là, il prononçait a.
70.
Il a donné, oui, et il a donné le o. Donc, elle le dit, l'académie dit le mot zéro vient de chiffre, mais elle le dit non, ça vient de zera, le zéro, le rien, la notion de rien. C'est quelque chose d'important parce que Dieu a tout créé de rien. Et j'aime beaucoup le schéma qu'elle faisait du sablier. Et le zéro, c'est au milieu.
Oui.
Il y a presque rien, quoi, mais ce tout petit rien, c'est déjà quelque chose et qui va vraiment tout par-delà, quoi.
Entre le 1 Aleph et le 7 aussi, ça fait 107 ou 701.
Oui, non, c'est.
La
Il y a.
lumière et l'ombre. La lumière et le. Oui. Et ce jeu, elle le dit dans le symbolisme du corps humain, je l'ai retrouvé dernièrement, alors que je l'ai lu 10 fois et que je cherchais ça en particulier. Il a fallu que je le lise 10 fois, parce que voilà, ce sont des vrais livres. Il y a tellement de livres qui sont des magazines, vous les lisez et puis vous les jetez. Les livres d'Annick de Souzel, il faut bien se dire une chose aussi, c'est qu'après, c'est vrai, vous avez raison, Suzanne, on peut s'initier à Annick de Souzel au travers toutes ses vidéos, hein, et je rappelle donc le Relais de Provence qui relaie justement la pensée d'Annick de Souzel. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur ou au travers les sites officiels, en tout cas, de la pensée d'Annick de Souzel. Mais il y a aussi une autre option qui fut celle que j'ai choisie moi. Mais bon, elle est peut-être différente et peut-être qu'elle nous pousse à des contresens, en tout cas au début. Mais c'est le fait de ces livres, de toute façon, d'Annick... Oui, ils sont compliqués. Bah, il faut les relire 10 fois parce que à chaque fois que je les relis, j'ai l'impression de le redécouvrir totalement et d'être passé à côté de 90 ou 95% de ce qui était écrit.
Oui, ben moi j'ai fait ces stages peut-être 20 ou 30 fois et chaque fois je me dis, ça j'avais pas vu, ça j'avais pas compris. Si on relit un livre qu'on a lu il y a 4 ans, on ne lira pas la même chose parce que notre niveau de conscience évolue, tant soit peu, mais quand même un peu. Et donc, on est plus ouvert à quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et ça, ça vaut vraiment le coup dans des livres comme Annick, de les reprendre. Mais c'est intéressant aussi, je voudrais dire, pourquoi on a fait toutes ces vidéos avec Igor Oshmiansky.
Allez-y.
Et Igor me dit, Suzanne, il y a 4 sites qui s'appellent Annick de Souzel. Est-ce qu'Annick connaît les personnes qui... Je lui dis, je ne sais pas, envoie-moi les liens. Donc, il m'envoie les liens. Moi, j'imprime, c'est à peu près tout ce que je sais faire avec mon ordinateur. Quand je rencontre Annick, très régulièrement, je lui dis, est-ce que tu connais cet homme ou Non, je sais pas du tout qui c'est. Puis il y avait des bêtises sur ces sites, tout ça, mais le nom faisait venir du monde. La publicité qu'il y avait dessus rapportait à ces personnes. Donc il y avait plusieurs sites qui s'appelaient Annick de Souzel. Et je lui dis, mais tu peux pas laisser faire ça. Et elle me répond, j'irai pas en procès. Débrouillez-vous, trouvez une autre solution. Moi, des solutions, j'en ai pas. Hein, je sais pas. Et Igor lui dit, si moi je pense à quelque chose. Je voudrais que ce soit intime entre toi et Suzanne. Elle te pose la question qui est débattue sur ce site et on filme ta réponse à toi. Et je la mettrai en lien avec le site. Ça va les calmer. Et effectivement, au bout de 6 mois, tous ces sites douteux s'étaient arrêtés. Le seul problème qu'on a eu, c'est qu'en mettant 4 vidéos, on a reçu 100 questions. Et donc, on a continué. Chaque fois qu'on arrivait à se rencontrer avec Igor, qui venait filmer, à poser des questions. Alors, Annick refusait de répondre aux questions personnelles, mais elle a répondu à beaucoup, beaucoup de questions que je relayais pour que ce soit sa parole à elle, pas pour parler moi, mais vraiment la faire aller le plus loin possible sur le sujet, qu'elle développe elle. Et on peut pas dire le contraire, c'est sa parole à elle. Donc, et ça a été très, très. On a fait énormément de choses comme ça.
Comment ça se passait parce que sans trahir votre intimité, vous êtes du sud-est de la France, Manosque, on peut le dire avec un si beau nom de. Et comment, parce qu'elle, elle était près d'Angers, hein, justement, Annick de Souzel, comment ça se passait? Vous montiez souvent comme ça dans le nord de la. Enfin, dans l'ouest.
Conduit assez facilement, ouais. Donc quand elle venait dans le midi, j'allais la récupérer.
Elle venait dans le midi souvent,
ouais. Elle faisait un stage tous les ans avec mes amis de Jouk, elle faisait des stages à droite à gauche. Vers Annecy, j'allais la rejoindre en voiture, elle arrivait par ses propres moyens. Après, on est allé plusieurs fois en Suisse où son fils résidait pour le voir. Après, on est beaucoup partis en vacances toutes les deux sur la côte près de l'Espagne, tout ça, où on a eu des fous rires avec Annick. C'était quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait rire, qui aimait manger, c'était vraiment une bonne vivante.
Ouais.
Et on riait beaucoup. Alors, ce qui était amusant, c'est que Annick, chaque fois qu'elle voulait me raconter une histoire marrante, elle oubliait la fin. Et on se mettait à rire rien que de ça, parce que elle avait pas d'humour directement. Elle aimait l'humour, elle racontait qu'elle avait fait un stage de clown et qu'elle a été la seule à pas faire rire. Mais c'était pas son, c'était pas son charisme à elle, quoi.
C'est vrai, je confirme.
Chaque fois que je lui racontais des histoires ou qu'elle me faisait des blagues, pas possible. Enfin, on a énormément ri toutes les deux. On a attrapé des fous rires comme des enfants et c'est des souvenirs extraordinaires. Et là, je montais la voir presque tous les mois à
Oui.
Angers. Et elle, à chaque fois qu'elle m'a Suzanne, et elle se mettait à sourire, tout ça, parce que on avait un rapport dans l'humour, dans la foi. Elle a été ma marraine dans l'orthodoxie.
Oui.
Et on avait vraiment des liens très proches. Très, très proches.
On peut parler encore, il reste que quelques minutes, mais de la calligraphie. Et j'ai souvenir, c'était d'ailleurs lorsque je m'étais mis en quête de pouvoir rencontrer Annick de Souzenel et que vous avez été justement ce pont, et ça je le remercie encore parce que c'est terriblement compliqué, je pense, pour beaucoup. Et ça crée beaucoup de quiproquos quand on a un tel. C'est plus, on parlait d'Aïn, de la source ou du puits, de savoir comment ne pas céder à cette tentation pour de passer de l'avoir, de rester dans l'avoir. Je l'ai, elle est à moi, c'est ma connaissance. Alors qu'en fait, c'est de l'être. Et ça, je pense que vous avez été choisi dans un destin parce que vous, quand vous la rencontrez, votre mental, vous avez compris qu'il tient à peu de choses, qu'il a été sévèrement attaqué et qu'il va falloir passer à autre chose. Ça, je crois. Hein.
Ça, c'est sûr.
et donc, je me souviens quand. Donc, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette calligraphie et puis d'une lettre en particulier, parce que j'avais regardé des vidéos avec Suzanne Renarda. Il y en avait une où elle dit ah, cette lettre-là, de toute façon, et c'est pas un hasard, j'ai beaucoup de mal à la calligraphier parce que ça correspond un petit peu à cette épreuve que j'ai à faire dans cette vie, dans cette existence finalement. Parlez-nous un peu de ces lettres hébraïques, de ces énergies, de cette calligraphie et puis de vous aussi peut-être un peu.
Alors, la calligraphie, j'ai jamais voulu. Je suis pas une artiste du tout. J'ai jamais voulu faire de calligraphie. J'ai simplement un stage d'Annick sur Aix-en-Provence. Il y avait un autre manosquin qui me dit j'ai beaucoup de mal en connaissant pas les lettres hébraïques. Et je lui dis oui, moi j'en suis là aussi. Donc c'était il y a très très longtemps. Mais j'ai un ami juif et je vais lui demander s'il voudrait pas m'apprendre les lettres hébraïques. Donc, de là-bas où on était, je téléphone, il n'y avait pas de portable à l'époque, à cet ami, et il me dit très volontiers, ma femme, il y a des années qu'elle aimerait que je lui apprenne, j'ai un autre ami, une autre amie architecte, enfin, qui veulent, et donc on n'a qu'à organiser ça chez toi, et on fixe une date. Et il arrive, alors moi je prépare le thé, le café, les petits gâteaux, et on se retrouvait six... Et là, il arrive avec les plumes, les calames, l'encre. Horreur pour moi. Horreur, horreur. Tout ce que je voulais, c'était apprendre l'alphabet, les lettres, les reconnaître, tout ça. Et je me vois avec de l'encre qui dégouline jusqu'au coude. Enfin, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. La seule sortie que j'ai eue, c'est de travailler sur la symbolique des lettres. Donc, le livre d'Annick sur les lettres est extraordinaire. J'en avais beaucoup d'autres que j'ai parcourus aussi, que j'ai travaillé, tout ça. Puis j'ai médité ces lettres. Et à un moment donné, miracle, presque 2 ans après, on se voyait une fois par mois, il y a une lettre qui est sortie juste. Et je me vois me reculer devant cette lettre comme si c'était pas moi qui l'avais faite parce que ça a fait un choc. La lettre, je l'ai toujours quelque part. J'ai déménagé, alors elle n'est plus tout à fait sur mon bureau, mais elle n'est pas loin. C'était la lettre même. J'ai beaucoup travaillé sur l'inconscient. Le même, c'est la matrice, c'est le contenant de l'inconscient. Donc, c'est celle qui est sortie, qui s'est...
C'est
qui
l'eau, c'est 40, c'est ça?
40, oui. Et vraiment,
donc, la quarantaine.
Oui, ben, c'était dans mes âges. Et y en
ah,
a
c'était
une...
dans vos âges en plus. Ah, ben, très bien.
Il y en a une que Bel je âge. N'arrive toujours pas à faire très juste. C'est celle qui vaut 60, le Sameur.
Ah là, c'est celle-là dont je me souviens que vous disiez, je n'y arrive pas.
C'est terrible pour moi parce que...
Qu'est-ce que c'est le Sameur alors?
C'est l'appui. C'est la lettre qui est dans le mât du navire, la hampe du drapeau, l'appui. C'est pas important. Oui, c'est le trou vertébral, si vous voulez, le dessin.
Oui.
Le trou, c'est rien, mais c'est par là que tout ce qui est important passe. Donc, et moi, c'est l'appui. Et comme je ne sens pas la moitié de mon corps, j'ai récupéré la motricité, mais je n'ai pas récupéré la sensibilité, tout le côté gauche. Donc, je suis toujours en perte d'équilibre. Mon appui, il n'est jamais bon.
Eh bien, vous avez compris en tout cas ce qui est le fondement même de l'amour chrétien, c'est-à-dire que ce que l'on n'a pas, il faut le donner. C'est en le donnant qu'on le reçoit. Vous êtes l'appui, justement, d'Annick de Souzenel, bon sang.
Ah, je l'ai vraiment accompagnée avec tout mon amour et je crois que c'était vraiment réciproque. Elle avait beaucoup d'affection pour moi. Et vraiment, nos vacances, ça, quand elle a été opérée de la hanche, beaucoup trop tardivement parce qu'elle avait une malformation congénitale comme beaucoup de Bretons. Et elle s'est faite opérer que quand elle a pu poser le pied par terre en fauteuil roulant. Hein. Le dernier stage que j'ai vu, c'était à Annecy où elle était en fauteuil
Ouais.
avant son opération. Et donc, elle s'est faite opérer. Elle est restée 3 semaines en rééducation. Et après, son amie Agnès Desanges l'a descendue chez moi. Et elle est restée un peu plus d'un mois. On est allé à la piscine tous les jours. On a fait tout ce que je pouvais. Moi, j'ai fait tout ce que je pouvais pour qu'elle puisse vraiment récupérer. Mais c'était laborieux parce que c'était un peu tard. Et elle n'a jamais pu trop remarcher comme il faut après. Elle a marché, mais elle aurait dû être opérée. Et ça, c'est terrible pour moi. Parce que dans les gens qui prennent un chemin spirituel, ils agissent comme si une prière ou quelque chose allait les sauver de tout. Alors qu'il y a des besoins pour le corps qui appartiennent au corps et qui doivent être traités à ce niveau-là. Et il y a des besoins pour l'âme qui sont tout autres. Et Annick, dans sa frénésie, c'est le mot qui me vient, de découverte, de tout ce qu'elle a découvert, de tout le travail qu'elle a fait, elle est passée au-dessus du corps. Elle n'a pas respecté son corps suffisamment alors qu'elle l'enseignait, qu'elle le disait
Ah
tout
bah
ça.
oui, je rappelle, hein, Annick de Souzenel, le symbolisme du corps humain, Albin Michel, c'est évident. Oui,
Oui,
mais on dit bien
bon.
que les cordonniers sont les plus mal chaussés.
Tout à fait. Donc, elle a eu beaucoup de mal à remarcher, mais elle a bien récupéré quand même jusqu'à ces dernières années pour pouvoir faire encore beaucoup, beaucoup de choses. Et
Suzanne, oui, allez-y, je vous en prie, il reste 1 minute, vous pouvez conclure.
voilà, ce que je voudrais conclure, c'est que le travail qu'a fait Annie en anthropologie est un travail absolument remarquable, essentiel, et qu'il faudra bien qu'un jour ou l'autre, nos églises, quelles qu'elles soient, se penchent dessus, pour enfin donner la place à Dieu et la place à l'homme qui mérite. L'homme est un être capable de devenir un Dieu, mais il faut qu'il travaille sur lui pour pouvoir atteindre ça et arrêter ses traductions, le péché. Le mot, il n'existe pas en hébreu. Rata, c'est visé à côté, amartia en grec. Et on nous culpabilise avec ce péché, avec des choses comme ça, qui n'existent pas, avec les enfers. Tout ça parce que dans les fleuves de vie qui descendent là-haut, il y a le Giron qui est traduit par Géhenne, et il y a toute une élucubration qui se fait sur les enfers. Dieu est un Dieu d'amour. Il nous met en situation de nous réaliser, mais il ne nous met pas en punition, il ne nous met pas en souffrance.
Eh
Parce
ben,
que.
voilà, ça sera les mots de la fin. Je pense que tout est dit, hein. Suzanne Redarda, qui a créé une association dont elle est la présidente, Relais de Provence, qui permettent justement de présenter par des vidéos, c'est parfois plus simple que l'accès immédiat à ses ouvrages d'Annick de Souzenel, la pensée d'Annick de Souzenel. Eh ben, un grand merci, Suzanne Redarda, pour ce témoignage. Je pense qu'on en refera dans le futur. Et puis, je vais peut-être passer à Manosque un de ces jours, si vous le voulez bien. Vous m'aviez déjà invité, je me rappelle. Merci beaucoup.
Problème. Merci à vous.
Et à
Au revoir.
très bientôt sur Radio Courtoisie. Merci, Suzanne.
Au revoir.